Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertille Bourdon, Nicolas Sendé, réalisée par Anna Holweck et mise en onde ce matin par Jean-Guilain Meige. Dernier volet de notre série consacrée aux mafias. Après avoir évoqué mardi la 'Ndrangheta calabraise, hier les narcotrafiquants mexicains, tournons-nous aujourd'hui vers le Japon pour nous intéresser aux Yakuza.
Après le séisme du 11 mars 2011, les Yakuza ont apporté leur aide et fait de nombreux dons aux victimes. Ce ne sont pas de mauvaises personnes. Moi, tout ce que je souhaite, c'est de préserver les traditions du Japon.
Ils vont en prison. Ils se coupent des doigts. Ils s'entretuent entre clans. Tout ça pour satisfaire leur ego. Quand je regarde en arrière, je me dis que les gangsters ont l'air tristes. Pour ne pas avoir peur des Yakuza, il faut en être un.
Longtemps dotés d'une existence légale, les clans de Yakuza, les célèbres syndicats de crime japonais, sont confrontés depuis quelques années à un durcissement sans précédent des mesures prises à leur encontre, à tel point d'ailleurs que leur nombre ne cesse de reculer. En effet, alors que les différents clans mafieux comptabilisaient dans les années 60 plus de 180 000 membres, il ne serait aujourd'hui plus que 15 000, auxquels s'ajouteraient quelques 13 000 associés. En tout cas, selon un décompte de la police japonaise, entre la politique répressive menée par les autorités nippones et les premières sanctions prises contre les entreprises liées aux Yakuza par l'administration américaine, l'impunité n'est plus à l'ordre du jour. Pour autant, il serait rapide de voir là la chute de cette mafia légendaire qui bénéficie encore d'une image héroïsée auprès d'une partie de la population. Historiquement liés à la droite japonaise, les Yakuza ont toujours su bénéficier des circonstances exceptionnelles et en particulier des situations de crise, comme l'a montré leur mobilisation à la suite de la catastrophe de Fukushima en 2011. Alors comment expliquer la diminution du nombre de Yakuza au Japon? Les circonstances actuelles de crise sanitaire constituent-elles une aubaine pour eux ou au contraire un nouveau coup dur? Et que nous dit la survivance de ces organisations criminelles, de la culture, de la société nippone, de son évolution? Les Yakuza seraient-ils comme d'autres les protecteurs des valeurs conservatrices nippones? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Philippe Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, professeur émérite à l'université Lyon 2. Vous avez signé très récemment aux éditions du Cavalier Bleu l'invention du Japon. Avec nous également Jean-François Sabouret. Bonjour Jean-François Sabouret.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment également d'être avec nous. Vous êtes sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, toujours associé au réseau Asie et puis décoré de l'Ordre du Soleil Levant, hein, qui est décerné pour service rendu au Japon. Vous aussi, vous avez commis quelques livres sur le Japon et j'évoquerai notamment l'un des derniers, La dynamique du Japon de Meiji à 2015. Alors, je parlais tout à l'heure de Fukushima. Il se trouve que aujourd'hui, le Japon est un peu comme tous les pays du monde, concerné par une crise sanitaire sans précédent, même si là-bas, on ne reconfine pas et encore moins de couvre-feu. D'ailleurs, c'est interdit par la Constitution. Donc, on se contente de recommandations, mais pas de mesures coercitives. Il n'empêche que Philippe Pelletier, l'archipel est lui aussi touché par le Covid-19 et qu'il y a évidemment des conséquences économiques et sociales. Et que, par conséquent, c'est un moment où l'État est mis à rude épreuve. Jusqu'où, précisément, cette catastrophe ébranle le pouvoir en place? Et surtout, est-ce que c'est un moment, vous semble-t-il, propice pour les Yakuza, pour montrer leur utilité sociale et redorer leur blason, Philippe Pelletier?
Par rapport à l'épidémie, il est trop tôt pour le dire. En revanche, je voudrais revenir sur les chiffres que vous avez annoncés. Ce que j'ai trouvé d'après un spécialiste japonais qui s'appelle Takahashi, on est loin d'une diminution, hein, puisque lui il donne le chiffre de 82 600 membres de groupe Yakuza. Donc en fait, il y a aussi un enjeu d'affichage et un enjeu politique par rapport à la police japonaise, qui dans le cadre des mesures dont on reparlera, qui ont été adoptées contre les gangs, vise effectivement à dire que le nombre a diminué, mais d'accord. En réalité, probablement
c'est pas.
Pas
si sûr que ça, mais d'accord. Jean-François Sabouret, pendant cette crise sanitaire, on a vu des Yakuza faire des distributions de masques, de médicaments ou encore de papier toilette qui manquaient cruellement dans les supermarchés et autres pharmacies. Et ce, malgré les mises en garde du gouvernement qui sait bien que c'est pas que de l'humanitaire qu'on fait et que c'est une aide qui a aussi pour objectif d'accroître l'influence de ces Yakuza dans la société. Jusqu'où vous diriez, Jean-François Sabouret, que ces Yakuza pourraient accroître leur influence à la faveur, si je puis dire, de cette crise sanitaire? Est-ce que l'histoire récente du Japon montre que les crises sont des moments particulièrement propices pour ces Yakuza?
D'abord, si on revient sur les événements, les tristes événements de Fukushima, donc 2011, les Yakuza ont essayé de prendre pied en quelque sorte, en redorant leur blason, comme vous le dites. On leur a demandé de nettoyer... indirectement, mais officiellement ce ne sont pas des Yakuza, mais des entreprises de nettoyage, des entreprises de construction ou de déconstruction, de nettoyer des bâtiments qui ont été endommagés. Mais je crois savoir que ça n'a pas véritablement marché. Ils sont moins présents, moins puissants dans le nord du Honshu que dans le sud, l'île principale. Ils sont puissants à Osaka, à Kobe, à Tokyo aussi, bien évidemment, il y a plusieurs clans, mais moins forts, je crois savoir, du côté du Tohoku, là où il y a eu le drame de Fukushima. Donc les Japonais, il n'est pas nécessaire, on parle aujourd'hui des Yakuza, mais en fait il y a toute une partie des Yakuza qui a disparu en quelque sorte des registres. C'est un peu la mutation normale. Le gang de Yamaguchi, par exemple, a été créé en 1920. Donc, ils ont prospéré jusqu'à la guerre. Ensuite, ils ont disparu. La famille Yamaguchi est réapparue. Taoka, celui qu'on appelait l'ours, à Kobe, en 1946. Et puis, il a prospéré. Il a prospéré parce que le Japon était détruit. Il a fallu reconstruire. Quand on dit Yakuza, essayer tout de suite d'associer reconstruction, entreprise de travaux publics, et puis aussi des gens qui ne veulent pas vendre leur terrain, alors les Yakuza, mais officiellement on ne dira pas Yakuza, viennent pour convaincre, vous imaginez tout ce que ça peut vouloir dire derrière, viennent pour convaincre les personnes de vendre leur bout de terrain, leur lot, et pour permettre aux entreprises de construire. Donc ils sont les adjuvants nécessaire, obligatoire, incontournable du fonctionnement de la vie quotidienne des entreprises japonaises, des grandes entreprises, et j'ajoute qu'ils sont, on pourra peut-être en parler, les gens incontournables, les adjoints incontournables du monde politique japonais. Mmh. Et ils jouent un rôle encore, bien évidemment. Simplement, la loi de 92 leur a demandé de baisser pavillon, en quelque sorte, mais qu'à cela ne tienne, les enfants et petits-enfants des Yakuza des années 40-50, ils ont fait de bonnes universités, un peu comme dans la mafia sicilienne aux États-Unis. Ils sont avocats, ils ont fait des métiers tout à fait recommandables. Ils ne sont plus Yakuza, ils sont chefs d'entreprise. Mmh. Donc maintenant, le problème, c'est de savoir où va l'argent, qui prête quoi, pour qui et contre quels échanges.
Mmh. Philippe Pelletier, sur cette utilité sociale des Yakuza, parce que c'est vrai que on les avait vus à l'époque de la triple catastrophe de Fukushima, à la fois parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre pour exécuter les travaux pénibles et dangereux liés à la catastrophe, mais on les avait aussi vus venir en aide aux habitants de Fukushima en les ravitaillant par camion. Alors certes, ils n'ont peut-être pas eu une influence colossale, en attendant, ils étaient là. Et quand on regarde là, par exemple, la crise sanitaire, ils étaient là une fois encore. Lorsqu'il y a eu cette affaire de ce navire de croisière, le Diamond Princess, qui a été touché par le virus, avec d'abord un cas et puis ensuite de nombreux cas au sein de l'équipage et des passagers, à tel point d'ailleurs qu'il a fallu confiner tout le monde à bord et immobiliser le navire dans le port de Yokohama, eh bien ceux qui sont allés pour décontaminer le bateau, eh bien parmi justement ces personnes, il y avait des gens qui sont membres de Yakuza. Alors il y a d'ailleurs peut-être quelque chose à détricoter ici, parce que il y a un lien visiblement très fort entre les yakuza et ce qu'on appelle les burakumin, les personnes du hameau qui sont une classe sociale descendant des parias de l'époque féodale. Visiblement, il y a beaucoup de yakuza qui sont issus précisément de cette communauté. Mais donc, ça veut dire qu'il y a une utilité sociale qui remet peut-être en question l'idée selon laquelle ces yakuza pourraient disparaître. On en a besoin. La société nippone en a besoin, Philippe Pelletier.
Ça dépend ce qu'on entend par social. En termes de réactivité, j'allais dire immédiate, dans la mesure où les yakuza sont proches de certains quartiers, de quartiers populaires et d'activités qui rapportent, ils sont sur le terrain, si on peut dire, et d'un point de vue image de marque, mais aussi d'un point de vue de garder le contact avec une partie de la population, effectivement, ils interviennent, ils réagissent. Mais quand on pense social dans une perspective plus large, c'est plutôt une idée de contrôle social, c'est-à-dire d'assurer la paix sociale, c'est-à-dire de maintenir un certain ordre en faveur des puissants. Et là, il y a la connexion fatalement avec le politique, la droite et l'extrême droite, avec l'économique, on en reparlera. Mais assurer cet ordre, c'est en particulier le deal qui a été noué dans les années 70-80, en particulier avec le plus puissant, le Yamaguchi-gumi, qui était en gros de dire vous faites un petit peu vos affaires, dans vos business, y compris dans le commerce du sexe, la prostitution, les jeux, etc. Mais vous ne touchez pas à la drogue, pour ne pas toucher la jeunesse japonaise. Ce deal est en train de voler en éclats, parce qu'effectivement, on y reviendra avec l'éclatement de la bulle, avec une partie de la crise économique japonaise. Les yakuza ont dû finalement trouver de nouveaux terrains d'opération. Et pour terminer sur le plan social, effectivement, là, vous avez, mine de rien, brisé un tabou, et même un tabou dans le tabou, un kinsei no kinsei, par rapport à la question de l'origine sociologique des yakuza. Effectivement, historiquement, majoritairement recrutés dans le sous-prolétariat, en particulier chez les burakumin, donc 60% d'après un ancien responsable policier, Suganuma, 30% d'origine coréenne et puis 10% pour le reste. Ce qui montre que du coup, ça touche une partie bien spécifique de la société japonaise.
Alors justement, Jean-François Sabouret, vous êtes sociologue de formation et par ailleurs, vous êtes intéressé de très près à ces burakumin. Moi aussi, j'ai trouvé ce chiffre-là, 60% des yakuza seraient des burakumin. Comment expliquer qu'il y a autant de cette classe sociale chez les yakuza?
Ce qui veut dire quelque part que la discrimination se poursuit toujours. Moi, je croyais naïvement, ayant fait mon travail de thèse sur les burakumin, que quelques dizaines d'années après, le problème était en voie de résolution. Et je suis allé, et j'ai été étonné, à Fukuoka, il y a 3 ans, et là on m'a dit, mais tu ne t'es pas renseigné, le problème persiste toujours. Il y a toujours des problèmes de construction, des problèmes de terrain, des problèmes de menaces, des problèmes d'extorsion de fonds, et des burakumin, mais 60%, je pense pas qu'ils soient aussi nombreux quoi qu'on le dise, parce qu'il y a d'autres personnes qui appartiennent à des groupes. Ça peut être aussi les Chinois maintenant font alliance quelque part avec la mafia japonaise. Il y a des gens qui viennent d'autres pays et la mafia japonaise, les yakuza, essaie de s'internationaliser. Et donc les burakumin sont moins puissants, moins présents là-dessus. C'est vrai qu'ils sont toujours très forts sur Osaka, Kobe, Nara et Kyoto aussi. Donc ça, c'est indéniable. Mais il ne me semble pas, mais je peux me tromper, bien sûr, qu'ils soient aussi puissants qu'on veut bien le dire, quoi. Parce qu'on veut toujours, quelque part, continuer à stigmatiser les gens issus des hameaux spéciaux, pour rester tout à fait poli.
Ouais, on va revenir justement effectivement sur l'évolution de ce paysage criminel, parce qu'à côté des yakuza, il y a effectivement d'autres acteurs qui sont rentrés en scène. Il y a la mafia chinoise, comme vous le disiez, Jean-François Sabouret, mais il y a aussi d'autres protagonistes, et en particulier les Angoulé, qui visiblement cherchent en tout cas à se faire aussi leur place. On va regarder les différences, mais c'est important, Philippe Pelletier, là, ce dont on est en train de parler, de savoir si oui ou non il y a une perte d'influence chez les yakuza, parce que les observateurs, beaucoup d'observateurs en tout cas, le laissent entendre. Vous m'avez repris tout à l'heure sur les chiffres, considérant qu'ils étaient peut-être sous-évalués. Il y a quand même cette idée selon laquelle ils seraient en recul, et notamment sous l'effet, bien sûr, des mesures anti-mafia qui ont été prises à plusieurs moments. Il y a, au début des années 90, une grande loi dite anti-gang qui va quand même porter un coup très fort, semble-t-il, à ces groupes. Et puis, un peu plus tard, vers les années 2010, on a des nouvelles ordonnances déclinées là cette fois au niveau des préfectures. Alors, il y a deux questions. C'est la première, jusqu'où est-ce qu'il vous semble que, en effet, ces yakuza ont perdu ou non de l'influence? Et puis, l'effet précisément de ces mesures anti-mafia qui ont été prises par les gouvernements successifs. Philippe Pelletier.
Oui, c'est deux questions en une, en fait. Et pour revenir très rapidement sur la question des parias, je crois effectivement qu'il faut se méfier des chiffres, et c'est toujours commode d'aller chercher des boucs émissaires. Bon, il est sûr que les législations de 91, 92 et celle de 2012 ont reconfiguré d'un point de vue juridique, institutionnel pratiquement, le cadre dans lequel évoluent les yakuza. Mais justement, c'est ce qui a conduit à restructurer. Hein, ils ont dû faire face à ça. Alors, il y a des paradoxes. Hein, il y a en particulier le Aizu Kotetsukai, qui est un gang de Kyoto, qui a d'ailleurs été piloté par quelqu'un d'origine coréenne, Takayama Takutaro, et d'ailleurs son dirigeant actuel, qui est Kaneko Toshinori, est également d'origine coréenne. Eh bien, ce gang a décidé c'est l'un des rares, mais il l'a fait, et c'est significatif, de reconnaître la législation de 91-92, qui constitue, grosso modo, à se faire identifier formellement sur un registre préfectoral, avec un discours qui est un discours de propagande, en disant « mais la chevalerie des yakuza est une chevalerie au service du peuple, le peuple c'est la loi, on respecte la loi ». Bon, en réalité, on sait très bien que les activités continuent souterraines, mais du coup, on voit apparaître de nouveaux petits groupes et on voit apparaître de nouvelles alliances. Et en particulier, l'un des éléments peut-être de mon point de vue le plus important, c'est la restructuration du Yamaguchi-gumi, qui est une espèce de nébuleuse plutôt en forme d'étoile de mer qu'en forme de toile d'araignée, d'ailleurs, d'un point de vue sociologique et anthropologique. Le Yamaguchi-gumi est maintenant contrôlé par un gang de Nagoya, le Kodokai, et en particulier, ce Kodokai a décidé de s'orienter dans les activités économiques de la finance. Mmh. Donc, bon là, avec des façades relativement officielles.
Pour information, hein, c'est vraiment un groupe très important, celui que vous avez déjà évoqué à plusieurs reprises l'un et l'autre, le Yamaguchi Gumi, du nom de son fondateur, Harukichi Yamaguchi, qui lui était un pêcheur de l'île d'Awaji, qui a fondé donc en 1915 une association criminelle avec une cinquantaine de camarades de cœur, et depuis c'est devenu le premier groupe, le premier clan, la première famille chez les yakuza, sachant qu'il y a en réalité une vingtaine de groupes. Jean-François Sabouret, vous évoquiez cette question du recul des yakuza, de l'émergence aussi d'autres acteurs. Vous avez parlé de cette mafia chinoise qui, c'est vrai, s'est fait connaître à peu près dans les années 90. Il y a eu notamment à un moment une série d'affaires de meurtres et de vols à main armée commis dans le quartier de Kabukicho à Tokyo. Et là, on a vu effectivement cette mafia chinoise apparaître sur l'archipel, mais on a plus récemment des acteurs, j'allais dire, plus locaux, avec des nouveaux gangsters qu'on appelle les Angoulés, qui eux, visiblement, ne tombent pas sous le coup précisément des lois anti-gang prises par le gouvernement nippon. C'est ça aujourd'hui la criminalité du Japon, et surtout, est-ce que c'est là l'avenir de l'organisation criminelle nippone de demain?
Il y a une grande inquiétude chez, c'est un peu amusant de dire cela, une grande inquiétude chez les yakuza qui, eux, ouais, disent, on peut en sourire ou non, nous avons un code d'honneur, ouais, nous respectons les règles que chacun connaît. Lorsqu'un crime est commis, on désigne une personne qui va se constituer prisonnière auprès de la justice. Au passage, c'est ce qui fait que la police japonaise a de tels résultats. Mais tout ça, c'était une entente en quelque sorte entre la police, la justice et les yakuza. Bien évidemment, quand les Chinois arrivent et se font justice eux-mêmes, ils vont pas se constituer auprès de la police. Et là, ce que l'on craint pour les gens qui sont observateurs du problème des yakuza au Japon, c'est qu'ils se créent des groupes non reconnus, non constitués, et que, pardonnez-moi l'expression, on défouraille très facilement, on tue, et surtout on tue les personnes, les civils en quelque sorte.
Or, c'est seulement une crainte ou ça s'appuie
jamais. Pardonnez-moi.
C'est seulement une crainte, Jean-François Sabouret, ou c'est déjà en train d'arriver? Quand on regarde un peu les chiffres de violence, les indicateurs, on le voit déjà?
Oui, vous citiez avec justesse le quartier bien connu, le quartier chaud de Kabukicho à Shinjuku, à Tokyo. Et là, ils ont essayé, et ils ont réussi d'ailleurs, de prendre pied dans Kabukicho. Il est certain qu'il y a eu des règlements de compte entre des yakuza japonais et des gangsters chinois. Mais il y a des ententes également. Pour les salons de massage, entre guillemets, on emploie cet euphémisme, eh bien, on va chercher des Chinois qui vont acheminer soit des Philippines ou d'autres personnes ou de Chine pour travailler dans les salons de massage.
Qui sont en fait des espaces de prostitution, pour être très clair.
Oui, il faut bien s'entendre avec eux. Par contre, il est vrai que la police japonaise et la justice japonaise a fait revivre une règle très ancienne et qui a son efficacité, c'est-à-dire que toute personne, vous le disiez tout à l'heure, doit se faire enregistrer et donc lorsqu'il se passe quelque chose et que quelqu'un enfreint la loi, on va punir aussi le chef. C'est-à-dire que les gens sont co-responsables, comme à l'époque d'Edo, vous voyez, ça s'est terminé en 1868, mais avant, il y avait ce qu'on appelait le Gonin-gumi, c'est-à-dire, c'était soit un groupe de personnes, une famille, ou soit un groupe de maisons dans un village, et lorsqu'il y avait des erreurs, des fautes qui étaient commises, c'est tout le monde qui trinquait, tout le monde devait payer, et là, ils ont remis cette chose-là, qui est à mon sens très étrange, puisque c'est une règle très ancienne, mais qui semble, si j'ose dire, fonctionner.
Est-ce qu'il montre la pérennité du système ?
Philippe Pelletier.
Oui, ça montre la pérennité du système, c'est même très très habile, parce qu'effectivement il y avait un côté relativement informel, avec des accords, des tolérances, des semi-tolérances, mais le paradoxe de la loi, mais comme toute loi, hein, il y a des contre-effets très très rapidement. Et celui-là, il est exemplaire parce que effectivement, il y a une forme de quasi-institutionnalisation d'une tradition qui n'a jamais disparu, qui effectivement, le chef endosse la responsabilité. Alors ça tombe bien, en général, les boss sont plutôt âgés, donc ils peuvent éventuellement terminer leur vie en prison, voire jouer sur les sourcils, etc., etc. Et donc ça fonctionne, et derrière, il y a toujours quelqu'un pour prendre la relève.
Mais ce que disait Jean-François Sabouret, c'est-à-dire cette idée selon laquelle, c'est vrai que dans notre imaginaire, c'est un peu ça, c'est-à-dire les yakuza, ils respectent un certain nombre de règles, de codes, mais bon, accessoirement, ça les empêche pas éventuellement de tuer des gens quand il le faut. Et puis, donc voilà, il y a cette idée selon laquelle ces vieux gangsters, ils ne seraient pas sans foi ni loi, et que les jeunes, eux, en revanche, le sont. C'est le cas, on a une nouvelle génération de criminels, beaucoup plus incontrôlable, beaucoup plus dangereuse, Philippe Pelletier?
Oui, beaucoup moins visible, mais en fait, il faut pas se tromper. Oui. Le recours à l'intimidation et à la violence a toujours existé. La police veut que ça déborde pas trop. En gros, vous faites vos règlements de compte, mais il faut pas que ça dépasse un certain stade. Alors, à un moment donné, il y a toujours des prurites quand il y a des rivalités de territoire, quand il y a des nouvelles alliances qui se nouent sur des nouvelles activités économiques, et là, ça bastonne, ça défouraille, etc. Mais, en gros, à ce moment-là, dans le discours yakuza, ce règlement de compte est considéré comme des choses internes, ne touchant pas forcément le peuple japonais. Alors effectivement, quand il y a un civil qui se trouve en ligne de mire, là ça devient plus compliqué, mais pareil, ça va se régler en intérieur avec celui qui a fait la faute, qui est puni à l'intérieur même des Yakuza, et puis avec l'intervention de la police.
Donc ça, ça veut dire que peut-être demain, ça n'arrivera plus, et qu'il y aura des règlements, finalement, beaucoup plus sanguinaires, et d'une certaine manière aussi, peut-être, Jean-François Sabouret, une société nippone beaucoup moins pacifiée. Parce que là encore, pardon, je suis un peu dans la caricature, mais on a cette idée d'une société nippone hyper sûre, on peut se promener sans aucun souci, on sera jamais embêté. Est-ce que ça veut dire que avec sinon la disparition, mais en tout cas la baisse de l'influence de ces yakuza dans le paysage criminel nippon, ça va aller avec une société beaucoup moins pacifiée? C'est d'ailleurs une thèse qui est défendue par, vous le connaissez forcément, par Jack Adelstein, qui est un journaliste américain qui est connu et reconnu pour son travail sur les yakuza. Il a notamment publié deux livres, Tokyo Vice et le dernier des yakuza, qui sont publiés l'un et l'autre aux éditions Marchiali. Et lui, il dit exactement ça. Je le cite, il dit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le Japon a cette réputation de pays très sûr, dans lequel rien ne peut vous arriver, c'est en partie, dit-il, grâce aux Yakuza. Donc la perte d'influence des Yakuza, ça veut dire aussi qu'on va vers une société moins pacifiée, Jean-François Sabouret.
Oui, c'est Jacques Adelstein, ça je recommande particulièrement son livre, c'est un gros livre, Tokyo Vice, mais avant Jacques Adelstein, il est un peu plus âgé, c'est notre ami commun Philippe Ponce, journaliste au Monde, et qui lui pense exactement la même chose. Il dit, s'il y a les Yakuza qui font la police, la petite délinquance ne prolifère pas. Mais c'était peut-être le cas en France à une certaine époque, je ne sais pas, après la guerre. Mais si véritablement les Yakuza disparaissent, eh bien là, il y a des nouveaux gangs, des nouveaux clans qui vont se créer avec des règles qui sont pas forcément les règles d'honneur. Mais il faut savoir que les Yakuza, après la guerre, à la fois, il y avait les successeurs de Yamaguchi-Gumi, mais il y avait aussi des gens avant la guerre ou pendant la guerre, jouait un rôle très important auprès de l'armée et du pouvoir politique japonais, qui ont été des gens comme Kodama Yoshio, le chef des réseaux d'espionnage japonais en Chine, ou Sasagawa Ryuichi. Sasagawa Ryuichi, que l'on présente toujours comme un grand bienfaiteur de l'humanité. Les Français aiment beaucoup Monsieur Sasagawa. Mais
qui est-il?
Pardon?
Parce que, pour quelle raison?
Parce qu'il a créé une société, une fondation qui aide à la publication d'ouvrages, de traductions. On fait des colloques et tout ça est financé. Et donc, il y a des gens qui ont refusé, mais en France, qui refusent bien sûr d'en croquer, entre guillemets, et d'autres qui ne se gênent pas de le prendre. Il y a un débat là-dessus, mais pour revenir à Kodama, à Sasagawa et tout ça, il y avait des liens très forts avec le pouvoir politique, et je ne suis pas certain que ces petits yakuza en herbe qui sont dans les municipalités, dans les villes, dans les régions, soient en lien très fort avec le pouvoir politique.
Ouais.
Donc, je pense, en conclusion, que les yakuza sont toujours puissants, ils sont moins visibles, et puis il y a toute la partie comme un iceberg, toute la partie qui est immergée des yakuza, qui sont chefs d'entreprise. Alors, on dira pas yakuza, on dira c'est une entreprise de construction, on ne dira pas yakuza, on dira c'est une entreprise de nettoyage, je sais pas, de centrales nucléaires, etc., etc.
Ouais.
Et donc, officiellement, ils ont une carte, ils vont vous présenter leur carte, et puis ils essaient de s'orienter vers l'international, et ils ont de bonnes ramifications. À ce sujet, quelqu'un me faisait remarquer il n'y a pas très longtemps que si les Japonais, le pouvoir politique japonais, voulait ramener au Japon M. Carlos Ghosn, ce ne serait pas un problème. On peut lui faire le chemin inverse. Avec de l'argent et un peu de violence, tout est possible. Mais bien évidemment...
Mais le Japon est une démocratie, donc il ne le fera pas.
Oui, absolument.
Voilà.
Et la mafia et la main haine dans...
Philippe Pelletier, pardon, la question du lien avec le pouvoir politique est très importante, parce que on dit parfois que les yakuza ont des liens très forts avec notamment la classe politique conservatrice, voire ultra-conservatrice. Qu'en est-il réellement? Est-ce qu'il y a des liens avérés avec le Parti libéral-démocrate, par exemple, le parti de droite? Est-ce qu'on peut dire qu'en effet, les yakuza sont, d'un point de vue idéologique, proches de cette droite conservatrice, voire carrément de l'extrême droite? Qu'en est-il?
Oui, il y a une répartition des rôles, c'est-à-dire que historiquement, idéologiquement, les Yakuza sont très proches des milieux d'extrême droite et réciproquement, c'est-à-dire que certains Yakuza vont fonder des groupes politiques d'extrême droite et des groupes politiques d'extrême droite comme l'Isuikai, par exemple, qui est la plus importante, qui n'a pas été fondée par des Yakuza, est quand même proche d'eux, notamment sur le terrain et d'un point de vue idéologique. C'est pour ça que, contrairement à ce qui est affirmé parfois, moi je pense que le système Yakuza, tant que le système étatique et le système économique capitaliste est en place, il ne disparaîtra pas. Il se recomposera, il est en train de se recomposer, il y aura effectivement de nouveaux petits groupes, peut-être plus violents, peut-être liés aux triades chinoises, etc. Mais en certains endroits, notamment à Tokyo, là où il y a le plus de richesses, il y a le plus de personnes, où, là où il y a le plus d'enjeux, mais ailleurs, sur l'ensemble de l'archipel, peut-être avec quelques exceptions, il y aura toujours le maintien de ces structures, j'allais dire systémiques, de ce système Yakuza politico-économique, parce que personne n'a intérêt à ce qu'ils disparaissent. Alors, la question de la sécurité, il faut pas tout mélanger, la question de la sécurité civile, individuelle, marcher dans les rues tranquillement, tant que vous touchez pas à des choses clandestines, à toute l'économie grise, tant que vous rentrez pas sur le shima, c'est-à-dire le territoire, l'île, sur le shima des Yakuza, vous aurez pas de problème. En revanche, ils peuvent aller vous chercher pour créer des faux accidents, pour vous faire du chantage, ou carrément vous menacer si effectivement vous menacez directement vos intérêts, y compris dans la classe politique. Mmh. Bon là, il y a quelques exemples, je ne sais pas si on peut rentrer dans les détails, notamment à la fin des années 80, au moment de la bulle, où le Takeshita Noboru, qui était l'un des piliers du PLD, qui voulait arriver au pouvoir...
Parti libéral-démocrate, donc de droite, hein, je répète
c'est
pour
ça,
les électeurs.
C'est ça, oui, Jiminto. En fait, a subi la pression de la part des Yakuza, parce que certaines fractions politiques voulaient pas de lui, mais finalement, vu la déconfiture à l'époque du Jiminto, la fin de la bulle qui s'approchait, etc., il y a eu des tractations politiques à très très haut niveau entre Kanemaru Shin, qui était un peu le faiseur de roi à l'époque, qui a directement demandé au nom du PLD à l'un des responsables de Inagawa Kai, qui est l'un des gangs de Tokyo, Ishii Susumu, pour le nommer, de faire taire ces groupes d'extrême droite qui nuisaient à Takeshita Noboru. Alors on ne connaît pas l'accord exact, enfin le contenu de l'accord, on sait qu'il y a eu un accord. Du coup, les menaces contre Takeshita ont disparu et Takeshita est devenu premier ministre à la fin des années 80 et quelques temps après, il y a eu ces fameuses lois de 91-92 qui montrent qu'à un moment donné, le politique classique, la droite classique, montre qu'il y a des limites à pas franchir.
Ouais, il y a eu un point de rupture. Jean-François Sabouret, sur ces liens entre les Yakuza et la droite, voire l'extrême droite nippone, on comprend qu'il n'y a plus de liens institutionnels directs, qu'on a fait le ménage d'une certaine manière, qu'il n'est plus question aujourd'hui du côté du Jiminto d'accepter des financements venant de l'organisation criminelle. Mais on peut se dire que d'un point de vue idéologique, il y a encore des ponts. Est-ce que c'est le cas ou pas du tout? Ou au fond, les Yakuza ne font pas de politique?
Les Yakuza officiellement ne font pas de politique, mais ils ont des amis. Ils ont droit de se réunir le soir, d'inviter. Il y a toutes sortes de fêtes pour soutenir telle ou telle idée, telle chose. Donc les Yakuza.
Mais ils ont des amis, mais est-ce qu'ils ont des avis? Et est-ce qu'ils ont des avis proches de ceux que l'on trouve dans l'extrême droite nippone?
Ils avaient des avis jusque dans les années 90, à la fin des années 80, parce que ils avaient deux métiers. Ils étaient yakuza la nuit et dans la journée, et peut-être si vous avez visité le Japon à ce moment-là, il y avait les camions noirs, c'est-à-dire les gens qui défendaient, qui s'attaquaient au syndicat des enseignants, le Nikkyoso, le syndicat des enseignants japonais, et qui circulaient en menaçant les enseignants et en vilipendant toutes les idées de gauche, les idées communistes. Hein. Vous voyez, donc c'était les leaders politiques japonais n'attaquaient pas directement forcément les idées, l'idéologie communiste et socialiste, comme on pourrait le faire aux États-Unis actuellement, si j'ose dire, si on peut faire une relation, mais ils se servaient des yakuza qui étaient avec les camions. Ils avaient imaginé 4 ou 5 énormes camions comme des tanks avec des drapeaux du soleil levant, l'ancien drapeau du soleil levant, et des slogans très agressifs, à la fois écrits et hurlés dans la rue. Maintenant, le communisme est tombé. Donc ils ont moins de raisons, il y a un lookroom cessance en quelque sorte de ce côté-là, ils ont moins besoin de se battre et quelque part les enseignants, ils les jugent peut-être moins virulents. Donc ils sont toujours là, toujours actifs, ils peuvent reprendre du service n'importe quand. Donc ils sont toujours, à mon sens, les bras armés du pouvoir politique japonais. Et vous disiez qu'il y avait problème économique, c'est-à-dire que cette loi anti-gang de 92, moi, selon mon comptage, et la loi anti-blanchiment en 93, ne vient pas par hasard à ce moment-là, parce que avec l'éclatement de la bulle économique à la fin des années 80, il y a énormément d'entreprises qui ont fait faillite. Et pour ne pas faire faillite, ils ont cherché de l'argent. Mais la faillite était presque totale du système. Or, les yakuza ont beaucoup d'argent et ils prêtaient de l'argent. Mais c'est pas sans contrepartie. Et donc là, il y avait un danger très grand que le système économique, politico-économique japonais soit gangréné par les yakuza qui étaient riches. Donc là, ils ont bloqué le système de cette façon-là.
On est avec vous, Jean-François Sabouret, et vous, Philippe Pelletier, autour de ces yakuza. On va faire un peu d'histoire, un peu de culture. Nul doute que vous avez l'un et l'autre reconnu un extrait des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, 1954, un film qui se déroule dans le Japon médiéval de la fin du XVIe siècle, qui montre ce village de paysans qui fait appel à 7 samouraïs pour lutter contre les bandits qui ravagent les campagnes environnantes. J'ai choisi ce film parce qu'il y a plusieurs hypothèses concernant l'origine des yakuza. Alors il y a une première hypothèse qui établit une filiation avec les bat couteau qui contrôlait à l'époque le monde des jeux de hasard, et les tekiya, les colporteurs et les camelots qui travaillaient sur les routes. Et puis la deuxième établit justement une filiation avec ce qu'on appelait les mashiyoko, les serviteurs des villes, qui sont des descendants d'anciens samouraïs qui se sont retrouvés un peu marginalisés après une période de pacification de l'archipel qu'on appelle la Pax Tokugawa, qui s'est étalée de 1603 à 1867. Alors, il y a deux questions. La première, c'est est-ce que cette deuxième hypothèse de la filiation avec les anciens samouraïs vous convient ? Est-ce qu'au fond, les yakuza sont les samouraïs d'hier ? Et puis, j'aimerais savoir comment aujourd'hui on se les représente dans l'imaginaire collectif et en particulier dans la culture nippone d'aujourd'hui. Philippe Pelletier.
Alors l'hypothèse samouraï nous fait remonter effectivement à partir de Meiji, 1868, et à ce moment-là, il faut dire ex-samouraï ou descendant de ex-samouraï. Il faut rajouter un élément qui est un élément politique, idéologique, qui est celui de l'asiatisme, parce qu'en réalité, les premiers groupes yakuza structurés en tant que tels, ils sont nés dans le nord de Kyushu, en particulier à Fukuoka, avec des militants asiatistes qui finalement, à la fois par affairisme et par idéologie, avaient des rapports étroits avec la Corée, juste en face, et plus loin la Chine. D'ailleurs, ce qui explique qu'ils ont fait, notamment pendant la guerre, beaucoup de business. On a parlé de Kodama tout à l'heure. Il y avait aussi sur le volet plus politique des gens comme Kishi Nobusuke, qui est le grand-père de l'ex-premier ministre Abe Shinzo. Donc ces gens-là, en fait, l'asiatisme était à la fois une valeur, on est tous frères asiatiques, et en même temps une opportunité, on va faire du business au Japon et en Asie. Après, ils se sont étendus, et c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus implantés dans l'Ouest, à Osaka, avec le Yamaguchi-gumi et les autres. Puis ensuite, ils ont Guigné et Tokyo, etc. Mm. Dans l'imaginaire japonais, c'est un peu compliqué. J'aurais tendance à dire que chez les Japonais, alors c'est un peu un cliché et une généralité, l'image du Yakuza est beaucoup moins chevaleresque que celle qu'on peut avoir, et en particulier certains jeunes en France, même si une partie du cinéma japonais a essayé de promouvoir cette image-là. Et je termine juste pour dire que l'un des réalisateurs les plus connus, celui qui a fait par exemple Battle Royale, qui a engagé Beat Takeshi Kitano, donc Kinji Fukasaku était très proche des Yakuza, et certains de ses films étaient financés par les Yakuza. Mmh.
Peut-être encore un mot, Jean-François Sabouret, et puis on va accueillir une nouvelle invitée qu'on va retrouver à Tokyo, qui est Nathalie Stucchi, sur ce que aujourd'hui, sur la représentation du Yakuza dans la culture nippone, Jean-François Sabouret.
Ben, il y a un problème, il y a un problème de génération. C'est-à-dire que tous ces gens qui avaient fait la guerre, qui sont nés en 1920, 1930, qui se sont retrouvés dans la plus grande pauvreté après la guerre, et là, il y a les romans de Nosaka, Akiyuki, La tombe des Lucioles, etc. Mmh. Et donc, tous ces gens-là qui se sont retrouvés après la guerre, ils ont joué un rôle dans les colonies, surtout dans le Mandchourie, le Manchukuo, pendant la guerre, pendant et avant la guerre, tous ces gens-là, quelque part, véhiculaient, charriaient toutes sortes d'idéologies de la force, ils avaient raison de faire ce qu'ils ont fait. Beaucoup, j'ai entendu beaucoup de discours de Japonais me dire qu'ils avaient apporté la culture et la civilisation en Corée, en Chine, etc. Mais ces discours-là se sont tenus également en France à une certaine époque. Donc les Japonais Yakuza, d'après-guerre, jusque vers les années 60-70, ne sont plus les mêmes que ceux qui sont là maintenant. C'est leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et donc, j'allais dire, il y a une perte de valeur en route. Mais les Yakuza, est-ce que ce sont les héritiers des samouraïs de la période d'Edo? Il y a à ce sujet, et ça je voudrais le recommander, un ouvrage très intéressant de Olivier Ansart, paraître et prétendre l'imposture du Bushido. C'est-à-dire qu'il y a le code d'honneur du Bushido, et donc ces gens qui sont prêts à se faire harakiri, il y a même un film, se faire harakiri quand leur honneur est atteint.
Bien sûr.
Or, ce que montre Olivier Ansart, c'est que tout ça, c'est une gentille invention, et que les samouraïs ne pensaient qu'à une... D'abord, premièrement, il n'y avait plus de samouraïs, parce que on avait procédé à l'époque ce qu'on appelait le katanagari, et pas seulement les katanas, de ramasser. Comme on ramasse les copies, là, ils ramassaient les sabres. Il n'y avait plus de guerre. Après Sekigahara, et au tout début du 17e, on a ramassé les armes. On ne se bat plus. Et surtout, les armes qui faisaient beaucoup de mal, c'était les Tanegashima, c'était les arquebuses. Et donc ça, le port d'armes était interdit en quelque sorte. Mais on a permis aux samouraïs de porter le sabre parce que c'était un signe de noblesse, en quelque sorte, qui les distinguait des vilains et des paysans. Mais en fait, beaucoup de ces samouraïs ne savaient même pas se servir d'un sabre. Mais par contre, ça leur permettait d'avoir un poste de fonctionnaire très intéressant. Mais certains étaient incapables de se servir d'un sabre. Alors, il y a toute une idéologie qu'on a véhiculée. Je précise que je n'attaque pas du tout la belle idéologie du judo, du aikido, du kyudo, du karaté, etc. Mais quelque part, les samouraïs, on a beaucoup fait sur les samouraïs. Ouais. Et les yakuza...
Rapidement, Jean-François Sabouret, je vous en prie.
Pardon ?
Rapidement, pour qu'on puisse accueillir notre dernier invité.
Oui, simplement les Yakuza se sont servis de l'idéologie samouraï, mais il y aurait beaucoup à dire sur l'idéologie samouraï jusqu'en 1868.
Ouais. Allez, on va accueillir une nouvelle invitée. On a bien compris que ce paysage criminel nippon a beaucoup évolué ces dernières années. Vous parliez tout à l'heure, Jean-François Sabouret, de Carlos Ghosn, qui a eu quelques problèmes avec la justice nippone. C'est pas le seul, il y en a un autre français aussi qui a eu des difficultés. C'est Marc Carpelles, qui a été arrêté au Japon parce qu'il était accusé d'être à l'origine de la disparition de 630 000 bitcoins, vous savez, cette crypto-monnaie d'une plateforme qu'il dirigeait. Et il a clamé, lui, son innocence. Et il s'est tourné vers la journaliste qu'on accueille tout de suite, qui est une spécialiste des Yakuza, qui est Nathalie Stucki. Bonjour.
Bonjour, merci. Bonsoir de Tokyo.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous en direct. Vous êtes journaliste indépendante basée à Tokyo, je le disais. Vous avez coécrit avec Jacques Adelstein qu'on évoquait tout à l'heure. J'ai vendu mon âme en bitcoins, toujours édition Marchiali. À l'époque où la justice commence à s'intéresser à Marc Karpeles, le programmeur refuse absolument de parler à la presse, de parler aux journalistes. Et pourtant, il va accepter de vous parler, il va même vous contacter alors que vous êtes journaliste. Pourquoi il le fait ?
Oui, alors c'était en 2014, effectivement, après l'annonce en fait de la bankruptcy de Mongox en février. Quelques mois plus tard, enfin pendant les mois qui ont suivi, il était bombardé par la presse financière du monde entier. Mais ses avocats lui disaient d'éviter de s'exprimer sur l'affaire. Et pourtant, autour de août-septembre de la même année, j'ai été contactée par un intermédiaire de la part de Marc Karpeles qui m'avait dit qu'effectivement, ils avaient remarqué que je tweetais énormément sur la crypto-monnaie à l'époque parce que j'étais très intéressée sur le sujet. Et en même temps, j'étais, en tout cas à Tokyo, j'étais connue pour être l'assistante de Jack Adelstein pour des enquêtes qu'il faisait et puis aussi pour l'aider à écrire des livres sur Yakuza.
Oui, pour le dire tout à fait directement, Nathalie Stucki, en réalité, le réflexe de Marc Karpeles, il doit se comprendre parce qu'il pensait que derrière ce vol de Bitcoin se trouvaient les Yakuza.
Voilà. Alors pour résumer, c'est ça. Il m'a contacté parce que j'étais francophone. Je suis suissesse, donc nous parlons la même langue. Et à l'époque, Marc se sentait plus peut-être en sécurité, peut-être pour s'exprimer en français. Peut-être, je ne sais pas. Mais
en tout cas, la question, c'est là où je veux en venir, Nathalie Stucki, c'est que en réalité, ces Yakuza n'étaient pas derrière l'origine derrière ce vol.
Absolument, il n'y avait pas de Yakuza derrière des bitcoins, il n'y avait pas de bitcoin à l'époque.
Aujourd'hui, il est toujours inculpé, il est poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation. Alors, il y en a pour lesquels il a été innocenté, il y en a d'autres pour lesquels c'est toujours d'actualité. Vous nous faites un peu l'état des lieux de la situation judiciaire de Marc Karpeles aujourd'hui. Il y a toujours des charges qui sont retenues contre lui, lesquelles ?
Oui, alors il avait trois chefs d'accusation, détournement de fonds, manipulation de données informatiques et abus de confiance. Alors c'est absolument sans précédent au Japon qu'un étranger se fasse innocenter sur même un chef d'accusation. Donc il a été innocenté sur détournement de fonds et manipulation de données informatiques, mais les procureurs, enfin les juges ont décidé de garder l'abus de confiance. Mmh. De ses clients.
Vous le disiez, hein, vous vous intéressiez à ce moment-là et au Yakuza et à la question des cryptos, de la crypto-monnaie. C'est ce qui explique que Marc Karpeles vous ait contacté. Mais avant d'arriver au Yakuza, le sujet qui vous intéressait en particulier, c'est la question du tsunami. D'ailleurs, vous avez débarqué en 2011 après le tsunami. Vous avez été comme happé d'une certaine manière par cet événement tragique. Peut-être précisons ici que vous avez des origines nippones. Et puis, après avoir longuement couvert ce tsunami, vous êtes tourné vers le monde de la criminalité, vers ces Yakuza. Pourquoi ce glissement ? Est-ce qu'il s'est fait en réalité naturellement ? C'est-à-dire que couvrir le tsunami, immanquablement, vous a conduit vers les Yakuza ?
Alors, c'est une anecdote, mais donc à l'époque, j'ai débarqué vraiment au Japon et je suis allée avec les équipes de France 24, avec des équipes de médias internationaux dans le Nord pour faire l'état de ce qui s'est vraiment passé, l'après-tsunami, etc. Et donc, si j'ai commencé à travailler sur la mafia japonaise, c'est vraiment uniquement parce que je travaillais très tard le soir souvent jusqu'à minuit, au club de presse international de Tokyo, donc le FCCJ, Foreign Correspondents Club. Et c'est là que j'ai été remarquée par Jake Adelstein, qui à l'époque cherchait un assistant pour conduire en fait des enquêtes et puis des interviews avec des sources pour son livre.
C'est pas parce que les Yakuza ont été particulièrement actifs après la catastrophe, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec nos deux invités.
Oui, effectivement, ils ont été actifs lors de Fukushima. Il y a Jake Adelstein était au courant en direct, et il a d'ailleurs écrit des scoops parce qu'il était il est en contact avec certains groupes, et il a su que une grosse troupe de Yakuza se dirigeait vers le nord pour distribuer des vivres, des couvertures. Et toutes sortes d'aides.
Peut-être une toute dernière réaction avec nos invités Jean-François Sabouret et Philippe Pelletier en guise de conclusion. On a beaucoup dit qu'il y a en tout cas des signes qui montrent qu'il y a une perte d'influence de ces Yakuza. Il va y avoir très bientôt un événement majeur du côté du Japon. Enfin, normalement, c'est les Jeux Olympiques qui ont été repoussés. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que ça pourrait être un moment propice pour les remettre un peu sur le devant de la scène? Vous nous avez dit combien l'un et l'autre, ils étaient liés à un certain nombre de secteurs, et notamment les travaux publics. On sait combien ils sont sollicités dans ces moments-là, et on sait aussi combien l'argent qui découle de l'organisation de Jeux Olympiques est colossal. Jean-François Sabouret, vous pensez que ça pourrait être un moment pour une forme de retour de cette organisation criminelle qu'on veut un peu plus, qu'on veut traditionnel en tout cas par rapport aux nouvelles formes qu'on a décrites?
Il y a deux choses. À mon sens, les Yakuza n'ont pas disparu, donc il n'y a pas de retour à avoir. Ouais. Il y a une mutation. Et cette mutation, elle est en cours. On ne sait pas ce que ça va donner dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais ils sont là, et à mon sens, ils sont là pour longtemps. Ouais. Deuxième point, c'est beaucoup moins prégnant au Japon qu'en France, puisqu'il n'y a que 1700 morts avec la Covid-19, mais quand même, les Japonais ils ont l'habitude de porter le masque, depuis toujours, donc ça ne les gêne pas du tout, ce qui fait qu'ils ont pu continuer à circuler. Mais la question est-ce qu'il y aura les Jeux Olympiques en 2021?
Oui, rien n'est certain.
Parce que s'il y a des Jeux Olympiques, il faut bien qu'il y ait des spectateurs. Or, on ne peut pas se rendre, j'insiste là-dessus, on ne peut pas se rendre au Japon. Je ne suis pas allé au Japon depuis le mois de février. Et c'est une grande souffrance.
Philippe Pelletier, allez, 30 secondes, on arrive vraiment au terme de l'émission. Je vous en prie, Philippe Pelletier.
Oui, mais c'est le pouvoir a intérêt à dire et à montrer que les Yakuza régressent. Ils sont toujours là, ils seront encore là. Moi, je voulais insister sur un point politique et idéologique. L'assassinat du maire de Nagasaki, Ito, en 2007. On a avancé le fait que c'était un désaccord avec un marché de construction et les Yakuza. Il est assassiné par un Yakuza. Ouais. Mais en réalité, Ito, il se prononce pour le bannissement des armes nucléaires. Donc derrière, il y a un enjeu, parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, la lutte anticommuniste, elle ne structure plus idéologiquement les Yakuza et l'extrême droite, par définition. Mais de fait, un nouveau combat, c'est celui de l'ultranationalisme japonais, qui passe par un « Make Japan Great Again », n'est-ce pas? Et certains hommes politiques, y compris Hashimoto Toru, dont le père était Yakuza, qui était maire et gouverneur de Osaka, réclament la bombe atomique pour le Japon. Et moi, je pense que les Yakuza seront toujours là, en arrière-plan, dans l'économie grise du Japon, et toujours très actifs, peut-être plus discrets, et idéologiquement, ils seront là pour défendre un néo-nationalisme nucléaire.
Merci beaucoup à tous les trois, Philippe Pelletier, Jean-François Sabouret, Nathalie Stucki. Les ouvrages des uns et des autres à retrouver évidemment sur la page de France Culture. Un grand merci à tous les trois. Dans quelques minutes, on retrouvera Olivier Jesper et la Grande Talle. Mais tout d'abord, c'est Brice Couturier et le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Qu'on retrouve par téléphone. Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et le mot laïcité, Brice, est paraît-il intraduisible dans la plupart des langues, une exception française en quelque sorte.
Eh oui, notre conception de la laïcité est mal comprise à l'étranger. Et pas uniquement dans les pays où l'islam est déclaré religion d'État, comme le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, l'Irak ou l'Iran, mais également dans des démocraties libérales occidentales. Les vieux pays protestants, comme les États-Unis, qui ont connu un processus de sécularisation, comprennent mal notre fameuse laïcité. Leurs États n'ont pas eu à se confronter à une institution hiérarchisée, centralisée et soumise à une autorité située à l'étranger, l'Église catholique, apostolique et romaine. Les hommes qui ont fondé la Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle étaient des protestants puritains, persécutés dans leur pays d'origine, et ils ont voulu garantir la liberté de conscience et le pluralisme des cultes. Le premier amendement de la Constitution des États-Unis stipule « Le Congrès n'adoptera aucune loi ayant pour objet d'établir une religion ou d'en interdire le libre exercice ». Et Thomas Jefferson a réclamé, je cite, « un mur de séparation entre l'État et les Églises ». Bizarrement donc, dans ce pays dont la culture demeure empreinte d'une religiosité diffuse, la séparation des religions et de l'État est une donnée fondatrice. En outre, comme l'a montré Tocqueville, le self-government, l'autonomie locale des communautés religieuses, a servi de fondement à l'établissement de la démocratie américaine elle-même. Et par la suite, l'État moderne, dans les pays protestants, n'est pas entré en conflit, comme chez nous, avec les religions. La société s'y est émancipée du contrôle des églises de manière progressive et spontanée. Alors il est bien difficile d'expliquer aux étrangers les spécificités de notre fameuse laïcité. La correspondante de la Deutsche Welle écrivait récemment « Le sécularisme rigide de l'État français, où la religion est complètement exclue de la sphère publique, a contribué à rendre le débat conflictuel. » Et sur le site The Conversation, deux universitaires australiens, Greg Barton et Fethi Mansouri, écrivent « En France, le sécularisme signifie qu'il n'y a pas de place dans la vie publique pour exprimer son identité religieuse, à moins que celle-ci soit alignée sur le catholicisme. Sans doute ne sont-ils pas venus en France depuis longtemps. Le président de la République, dans son discours des Mureaux, vient d'ailleurs de déclarer explicitement le contraire. Je cite Emmanuel Macron, « La laïcité, c'est la neutralité de l'État et en aucun cas l'effacement des religions dans la société ni dans l'espace public. »
Peut-être, Brice, faudrait-il expliquer à ces observateurs peu attentifs que notre laïcité nous vient d'une histoire bien particulière.
Et oui, qui n'est pas la leur, c'est celle d'une lutte politique, celle du camp républicain tout entier pour émanciper la société de la tutelle du cléricalisme. Chez nous, le conflit politique entre l'État et une Église, en particulier le catholicisme autrefois dominant, a pris un tour aigu à la fin du XIXe siècle. Et ce conflit, on le sait, a été résolu à l'initiative de l'État par une loi de séparation suffisamment ambiguë pour que chacune des deux parties y trouve son compte, même si dans un premier temps, la résistance du camp catholique a été véhémente. Aujourd'hui, dans le cadre de cette laïcité, les religions ont voix au chapitre, en particulier sur les thèmes de société, mais elles se gardent soigneusement d'intervenir sur le terrain strictement politique. La neutralité de notre État dans le domaine des croyances permet la cohabitation pacifique des fidèles des différents cultes et de ceux qui n'appartiennent à aucun. Mais notre fameuse laïcité est mal vue, je le disais. Bien des journaux américains estiment que le gouvernement se servirait des récents attentats islamistes comme de prétexte, je cite, pour réprimer l'islam au nom d'une laïcité intransigeante. Leur répond Benjamin Haddad, qui vient de publier dans la revue Foreign Policy un article qui réplique au New York Times. Faire porter la responsabilité des attentats et la montée du radicalisme à l'État français, écrit-il, est le signe d'une dangereuse confusion morale. Les traditions anticléricales de la presse française sont anciennes, explique-t-il, et Charlie Hebdo s'est moqué depuis des décennies de toutes les religions, chrétiennes en particulier. Les accusations américaines d'islamophobie qu'on a vu fleurir dans les médias américains sont donc injustes. Et il observe, Benjamin Haddad, que dans la fonction publique, le monde des affaires, le journalisme ou la politique, je cite, « une nouvelle génération de citoyens français d'origines diverses est en train de faire son chemin ». Mais contrairement à ce qui se fait en Amérique, ils n'ont pas spécialement envie d'être étiquetés par une appartenance religieuse ou ethnique. Et Haddad de regretter que les médias américains fassent rarement entendre ces voix-là, leur préférant celle de sympathisants des islamistes. En même temps, poursuit-il, dénoncer comme islamophobes les politiques françaises visant l'islamisme, dans les visées séparatistes sont une réalité facile à constater, c'est tomber dans le piège que tend la minorité islamiste. Elle voudrait empêcher l'intégration harmonieuse des musulmans dans la société française. Dans le point, Kamel Daoud observe que dans les médias du monde arabe, je cite, « on inverse avec agressivité les faits. Ce n'est plus la décapitation de Samuel Paty qui est condamnée, mais la réaction française à cette décapitation ». Eh bien, le paradoxe, voyez-vous, c'est qu'une partie des médias légitimes américains soit en train d'épouser la même logique.
Merci beaucoup, Brice Couturier, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et l'application Radio France. On vous retrouve lundi pour ce qui est de la radio et demain sur le numérique.